Saint-Esprit dans le ministère de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne reposait que sur certains hommes, et cela en vue de la mission qu'il devait remplir pour conduire le peuple d'Israël vers son grand destin. N'oublions pas qu'Israël avait été formé, Dieu s'était formé un peuple en vue d'un très grand destin. Les prophètes, notamment, eux, étaient remplis de l'Esprit, ils parlaient par l'Esprit Saint. Mais l'Esprit n'était pas répandu sur tout le monde, et ce qui est à remarquer, c'est que l'Esprit n'agissait pas encore comme puissance de régénération et de vie nouvelle. Il avait des actions à mener, à conduire, mais pas celle-là. L'Esprit, d'ailleurs, n'est pas mis en relation avec le don de la loi du Sinaï. Quand vous lisez la loi du Sinaï et tout ce qui s'y rapporte, vous ne voyez pas d'allusion au rôle du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, pour voir alors au sujet de la vie et de l'action sur les personnes, sur toutes les personnes du Saint-Esprit, il fallait s'en rapporter à des textes qui n'avaient pas une portée immédiate et qui était pour le futur. Par exemple, Deutéronome 30, verset 6, reportons-nous, si vous voulez, à ce texte. Deutéronome, chapitre 30, et verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Là, nous voyons, n'est-ce pas, une promesse d'action de Dieu par son Esprit, assurément, pour circoncire le cœur, afin que le cœur puisse aimer Dieu et vivre. Seulement, ça, n'est-ce pas, si nous regardons cela dans son contexte, nous voyons qu'il s'agit d'une promesse se rapportant à un temps futur, celui du rassemblement après le grand exil, c'est-à-dire le rassemblement qui a déjà commencé, mais qui va se parfaire bientôt, certainement, comme l'annonce aussi le prophète Ézéchiel. Alors, nous avions des promesses aussi, par exemple celle de Joël, que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, rappelle, mais il s'agit encore là d'une promesse pour un temps futur. Jérémie, lui aussi, donne bien une promesse de la venue du Saint-Esprit sur toutes les personnes, mais c'est pour un temps futur. Le serviteur de l'Éternel, qui est le Messie, lui devait être porteur, nous l'avons vu ce matin, de l'Esprit de l'Éternel. Voyons encore un texte d'Ésaïe, au chapitre 42 et au verset 1er. Chapitre 42, verset 1er, le serviteur de l'Éternel. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. et ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Vous voyez donc, n'est-ce pas, que là, il y avait une promesse pour le Messie, mais cela, évidemment, se rapportait à un temps futur. Et voici que les temps messianiques, quand même, arrivèrent. Alors, l'Esprit a préparé, l'Esprit de Dieu a préparé la venue des temps. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, notamment dès que s'approche le moment de la venue du Messie, l'Esprit est à l'œuvre pour préparer la naissance de Jésus et pour lui donner son accomplissement, puisque c'est par la puissance du Saint-Esprit que la jeune fille, comme nous avons vu ce matin, pourra enfanter un enfant auquel elle donnera le nom de Jésus. L'ange Gabriel participe également à cette préparation de la naissance du Messie et il apporte des messages précis à Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste, ainsi qu'à Marie, la future mère de Jésus. Il annonce l'intervention du Saint-Esprit, lui, l'ange Gabriel, il annonce l'intervention du Saint-Esprit. En effet, il dit que Jean-Baptiste, ce Jean, l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie, sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il parle aussi de la mission que devra accomplir Jean-Baptiste. Et il annonce à Marie que le Saint-Esprit fécondera son sein. Il dit aussi que rien n'est impossible à Dieu. Et puis enfin, nous voyons que dans Luc, au début au chapitre 1er, que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, fut remplie, elle aussi, du Saint-Esprit lors de la visite que lui rendit Marie. Alors, voyons Luc, le commencement de Luc, je n'ai pas voulu vous faire lire tout pour économiser un peu notre temps, mais reportons-nous quand même au début de l'évangile de Luc, au chapitre 1er, et au verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Là, il y a quelque chose d'intéressant, de très intéressant, parce que ce verset nous montre, nous met au devant de cette réalité de la constitution de l'homme, constitution trialistique de l'homme que nous avons déjà mentionnée, mon âme et mon esprit. L'âme, que fait-elle? Elle exalte le Seigneur. Elle exalte le Seigneur. L'âme, c'est le centre essentiellement de la volonté, des émotions, et alors, évidemment, d'elle peut partir cette manifestation d'exaltation à l'égard du Seigneur. Mais son esprit se réjouit en Dieu son Sauveur. Son esprit devient le siège d'une joie en Dieu son Sauveur, une joie surnaturelle, une joie dont la nature humaine n'est pas la source. Cette joie est en Dieu. Mon esprit se réjouit en Dieu. C'est ce qui sera demandé ensuite aux chrétiens par Paul notamment dans les Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, en Dieu. Alors ça, nous voyons que, évidemment, Marie, qui est elle-même conduite par le Saint-Esprit, sait différencier ce que fait son âme de ce que fait son esprit, qui est déjà à ce moment-là en relation avec l'Esprit de Dieu. Elle est donc saisie, son esprit est saisi d'une joie surnaturelle, et cela dans une relation qui est actuelle avec l'Esprit de Dieu. Dans Luc encore, toujours au chapitre 1er, au verset 67, nous voyons Zacharie rempli du Saint-Esprit et pouvant prophétiser. Dans Luc encore, le chapitre 1er et le verset 80, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Il s'agit de Jean-Baptiste, toujours rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, nous pouvons comprendre que c'est à sa naissance. Dès qu'il sort du sein de sa mère, alors Jean-Baptiste, maintenant, rien n'empêche de penser que pendant la vie intra-utérine, il était aussi rempli du Saint-Esprit, ça, peu importe la façon de voir ces choses, mais il est peut-être plus normal de penser que dès le sein de sa mère veut dire dès la sortie du sein de sa mère, il fut tout de suite, immédiatement, rempli du Saint-Esprit. Et cet enfant se fortifiait en esprit. Ceci est pour nous une précieuse indication. Nous étudions la parole, nous étudions le glorieux passé des actions du Saint-Esprit, tout cela, bien entendu, avec le désir d'en tirer pour nous-mêmes profit. Alors, pour nous, il y a une précieuse indication, en effet. Ne devons-nous pas, nous aussi, nous fortifier en esprit par la présence en nous de l'esprit? Nous avons bien lu, n'est-ce pas, « Il se fortifiait en esprit ». Et comme nous, chrétiens, avons en nous l'Esprit de Christ, ne devons-nous pas être désireux, ne soyons pas, ne regardons pas ces choses, ces assurances, avec indifférence, c'est pas, oh, je suis rempli, je suis le temple du Saint-Esprit, tout va bien, très bien, et puis, bon, je laisse les choses aller. Non. Mais non, si on te dit que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est parce que tu as en toi, à pied d'œuvre, à pied d'œuvre, le Seigneur qui est prêt et disposé à accomplir des œuvres, à, par exemple, te donner la force, te communiquer la force. C'est bien ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6, n'est-ce pas ? Il nous demande de nous fortifier de la force à puiser dans le Seigneur. Et voici la naissance du Seigneur Jésus qui intervient. Il intervient dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Elle nous est relatée du premier verset jusqu'au verset 20. Vous le connaissez, je ne vais pas le relire maintenant. Dans ce passage, nous voyons Joseph et Marie en face des circonstances humaines qui découlent du plan de Dieu. Le plan de Dieu, il a été annoncé par l'ange Gabriel, il se déroule, a été annoncé avec plus de précision que ne l'avaient fait les prophètes. Et le temps où Marie devait accoucher arrive, elle enfante son fils premier-né. Bien, et voici que elle, Marie, et Joseph et le doivent aller à la ville de David, à la ville de David. Oui. Et donc, le plan de Dieu leur occasionne des actions, des nécessités auxquelles ils vont devoir faire face dans un déroulement circonstanciel, disons, des événements. Donc le plan de Dieu, vous voyez, peut, en certaines occasions, nous orienter, nous diriger vers des actions, des opérations qui sont de nature courante, de nature, disons, humaine. Et c'est le cas, c'est ce qui arrive pour Marie et Joseph. Nous voyons là que les anges interviennent. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » La ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La magnificence du ciel se manifeste en marge des choses terrestres. Voyez-vous, les choses terrestres ont leur part, puisque en raison des événements qui sont l'implantation du dessein de Dieu, des nécessités terrestres se présentent, mais aussi en marge de cela, la magnificence du ciel apparaît par la venue des anges en multitude autour des bergers, des gens simples. Et même à cette époque, les bergers pâtissaient plutôt d'un certain mépris. Le plus grand événement de toute l'histoire des hommes se déroule à l'insu du monde incrédule et indifférent. Plus grand événement. À l'insu absolument de tout le monde. À Bethléem, là, il y avait beaucoup de monde, tout était plein. Que faisait-on? On vivait comme on voulait vivre. On était là pour le recensement qui avait lieu. Et puis, bien sûr, on s'amusait. Et ce sont les animaux qui font place au Fils de Dieu entrant dans l'humanité. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Ce sont les animaux qui prêtent quelque chose. Ils prêtent une crèche, une mangeoire, pour servir de berceau au Fils de Dieu. Mais Dieu le voulait ainsi. Au huitième jour, Joseph et Marie ont maintenant à vivre avec le petit enfant. Petit enfant est né, il faut vivre avec lui. Que vont-ils faire? Eh bien, ils ont la loi pour guide. Ils s'inspirent de la loi. Et ils se rendent à Jérusalem pour la présentation au Seigneur. Et là, voici où l'œuvre de l'Esprit Saint va réapparaître. L'œuvre de l'Esprit Saint va se manifester. Nous aimerions peut-être relire ceci, c'est au verset 21 du chapitre 2, verset 21 de l'Évangile de Luc. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Vous voyez, toujours référence à la loi du Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Toujours, on accomplit, on agit, guidé par la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voici donc l'Esprit qui apparaît, Siméon. Siméon, l'Esprit Saint, était sur lui. Voilà un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Et il a en effet à remplir un rôle qui lui est préparé d'avance. Un rôle lui est préparé, un rôle de prophète. Mais quel rôle ? Vraiment, un rôle de prophète, mais de prophète mis en présence même du Messie attendu. Les autres prophètes avaient annoncé de loin la venue du Messie. Lui, il est là. Il voit le Messie, il voit le salut de Dieu, il prend même l'enfant dans ses bras. Sa prophétie revêt une importance capitale. Notons bien aussi ce que nous dit le texte au sujet de cet homme. Il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit était sur lui, mais non pas en raison, non pas sans raison, non pas sans que des raisons aient été tout de même considérées par Dieu. Juste et pieux, et il attendait. Si nous sommes justes et pieux, ou pouvons l'être dans le cadre de la nouvelle alliance, bien sûr, juste et pieux, et attendre. Nous aussi, nous attendons. Alors, si cela est, ne croyez-vous pas que le Seigneur nous maintiendra dans la plénitude du Saint-Esprit ? Ah, si nous l'attendons pas, moi je ne crois pas que le Seigneur nous donnera peut-être toujours cette plénitude, car la plénitude doit rester constante. Mais si nous attendons, si nous sommes justes et pieux, chaque jour, vous savez, la piété, c'est quelque chose de journalier, comme le pain quotidien. La piété est quotidienne aussi. Donc, sa prophétie a une importance capitale. Elle met le sceau de la vérité sur toute l'œuvre du Seigneur et sur l'œuvre de l'Église. Le Seigneur et l'Église. En effet, qu'annonce-t-il, à part le relais, la chute et le relèvement de plusieurs en grec ça veut dire une foule, hein, le relèvement et la chute d'une foule en Israël, bien sûr, mais le point vraiment capital de cette prophétie, c'est que l'enfant est appelé à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est ça le point vraiment merveilleux de cette prophétie. Pourquoi lui, Siméon ? Parce que, nous l'avons dit, il attendait la consolation d'Israël. Aucun autre qu'un tel homme n'aurait pu être choisi pour parler comme parlera le Seigneur lui-même. Il parle déjà comme le Seigneur va parler. Et un signe de contradiction, nous n'allons pas nous arrêter là-dessus, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire en Suisse, à Orvin, sur ce thème général, le signe qui provoquera la contradiction. Et je pense qu'il faut que cela reste dans notre cœur. L'Évangile n'est pas là pour consentir. L'Évangile est là pour contredire le monde. Bien sûr, le monde va se charger aussi, lui, de contredire l'Évangile. Bien entendu, de lutter contre l'Évangile. Mais l'Évangile est là, non pas pour consentir aux choses telles qu'elles se trouvent maintenant dans le monde, et qui résultent, nous l'avons vu, de la chute, et des conséquences développées de la chute, mais l'Évangile est là pour apporter la contradiction. Et il faut que cette contradiction reste vive, entière. Elle est une épée à double tranchant. Contradiction et nous, les témoins du Seigneur, il faut que nous soyons du même côté de la contradiction que le Seigneur lui-même et que sa parole. Nous sommes du côté de la contradiction. Je disais que la prophétie de Siméon avait une portée sur le ministère à venir là du Seigneur Jésus et sur l'Église entière. L'Église entière, elle aussi, apporte la contradiction. Jésus est donc, on peut le considérer comme cela, est donc une création. N'oublions pas que le Saint-Esprit, nous l'avons dit, c'est Dieu. Et Dieu, c'est Dieu à l'œuvre et Dieu présent. Eh bien, Jésus est une création directe de l'Esprit de Dieu, l'humanité de Jésus, l'incarnation. Est une création directe de l'Esprit de Dieu et il est, comme Adam, un nouveau commencement de l'humanité. L'humanité seconde, une humanité seconde qui échappe au diable, celle-là. L'humanité seconde, le corps de Christ, il est le second Adam. L'Esprit trouve en Jésus une nature créée, c'est pourquoi je dis qu'il est une création de l'Esprit. L'Esprit trouve en Jésus une nature créée en laquelle il ne rencontre absolument aucun obstacle. Il est cette, pourtant, c'est une chair semblable à celle du péché, comme dit Paul, n'est-ce pas, une chair semblable, c'est-à-dire, ce n'est pas une humanité sublime, c'est l'humanité, la nôtre, moins l'action intérieure du péché, l'action du péché, bien sûr, mais c'est une humanité telle que la nôtre. Et alors, là, dans cette humanité, le Saint-Esprit va avoir l'entière liberté, il ne rencontre aucun obstacle. Nous allons voir que Jésus est rempli, lui, du Saint-Esprit dans cette humanité, et là, la plénitude du Saint-Esprit n'aura pas à perdre, à baisser, parce que le Saint-Esprit occupera tout, et tout continuellement, jusqu'au terme du ministère du Seigneur. Nous reviendrons sur la présence du Saint-Esprit en Jésus, Fils de l'homme. Selon sa propre essence, Jésus est bien le Fils éternel. Il est le Fils éternel, il est la parole de Dieu, il est, comme le dit Ésaïe 63, l'ange qui se tient, le maléac en hébreu, le maléac qui se tient devant l'Éternel, devant Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, Ésaïe 63, Ésaïe 63, voilà, c'est au verset 9. Ésaïe 63, verset 9, « Dans toute leur détresse, il s'agit du peuple d'Israël, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange, alors l'ange, c'est le maléac dans l'hébreu, l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux. » L'ange qui est devant la face les a sauvés. l'ange qui est devant la face, et vous voyez que cet ange, c'est lui qui rachète selon son amour et sa miséricorde, c'est lui qui soutient. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 que dans le désert, un rocher suivait le peuple d'Israël, et ce rocher était Christ. Eh bien, là, dans l'Ancien Testament, vous voyez, il est appelé l'ange qui se tient devant la face de l'Éternel. Alors, voyons un peu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, prenons Matthieu, chapitre 3 et verset 11. Chapitre 3, versets 11 et 12. Moi, disait Jean-Baptiste, je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, nous avons chapitre 3, versets 16 et 17, nous avons ceci, Luc chapitre 3, c'est ça. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste apporte une pensée nouvelle ici. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce qui veut dire, il vous immergera. C'est le même terme que pour le baptême d'eau. Il vous immergera dans le Saint-Esprit, Saint-Esprit et feu. C'est-à-dire, il vous baptisera d'un souffle ardent, vous remplissant et vous sanctifiant. Il brûlera la paille, là est l'action, évidemment, du jugement. Brûlera la paille, ça, c'est très clair, mais baptisé du Saint-Esprit et de feu, cela constitue une seule et même expression qui a un seul et même sens. Il vous baptisera d'un esprit, par un esprit ardent, vous remplissant et vous sanctifiant. En Actes chapitre 1 et verset 5, Jésus reprend la prophétie de Jean-Baptiste, mais il ne mentionne pas, lui, le feu. Alors, nous voyons maintenant le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, je reviens à Matthieu, Matthieu chapitre 3, verset que nous avons lu, cette fois-ci c'est verset 16 et verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'Esprit de Dieu descendit sur Jésus comme une colombe. Matthieu, Marc et Jean donnent tous trois cette même précision. Sous une forme corporelle ou comme une colombe, ça ne veut pas dire que c'était l'oiseau lui-même qui était là, mais c'était comme une colombe. Cette forme de colombe servit à concrétiser la venue de l'Esprit. Car l'Esprit, lui, bien sûr, est absolument immatériel, il n'a ni corps ni forme, mais là, Dieu a voulu que le Saint-Esprit fût concrétisé. Et pourquoi une colombe ? Dieu a choisi la colombe. La colombe, on peut dire, est le symbole de la douceur, de la paix, oui, c'est bien, mais il faut nous souvenir aussi avec l'Écriture que l'offrande qui était à présenter à l'Éternel en sacrifice de culpabilité pour les pauvres était précisément constituée de deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. Colombe ou pigeon ou tourterelle. Donc c'était l'offrande des pauvres. Et nous savons ce concept de pauvre a d'importance dans la parole du Seigneur Jésus. Mais pas toujours les pauvres absolument, ceux qui sont dans le dénuement le plus complet, mais les pauvres en esprit, les humbles, ceux qui s'attachent à la pauvreté. Et puis, il faut dire que ce fut aussi l'offrande de Marie, que nous avons vu tout à l'heure, le huitième jour au temple de Jérusalem. La colombe des textes nous en parle, le psaume 68, verset 14, le psaume 68, et verset 14. « Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. » L'argent et l'or. Nous savons qu'il y a là, dans l'enseignement de ce qu'on appelle généralement la typologie, il y a une correspondance avec la nature, l'argent, la nature du Seigneur Jésus et l'or, la divinité du Seigneur Jésus. La colombe. Et puis dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er et au verset 15, nous avons ceci. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, tes yeux sont des colombes. Voyez donc la colombe dans le langage symbolique de la Bible représente vraiment quelque chose de très élevé, de très grand. Seigneur Jésus aussi, je le rappelle, nous a dit, soyez simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Cela me rappelle un incident. Un jour, j'allais avec un frère, c'était en Algérie, et nous avions une démarche à faire près d'un avocat protestant pour nos petites affaires d'association. Et puis alors, en route, ce frère me fait des recommandations. Il me dit, frère, attention devant un avocat, il faut être vraiment prudent. Il faut, vous savez, comme dit le Seigneur, il faut être rusé comme des serpents. Alors je lui dis, écoutez, je ne sais pas, mais il me semble que vous ne citez pas très bien le texte. C'est pas tout à fait rusé, ça doit être prudent. Plutôt prudent comme des serpents. Voilà. Jean rend témoignage de la venue de l'Esprit dans un contexte où il déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'agneau est cet autre symbole qui est emprunté aussi donc par le Saint-Esprit qui a conduit la rédaction du livre. Eh bien, c'est le second symbole, l'agneau. Ce sont des symboles qui sont assez proches l'un de l'autre. Nous trouvons peut-être dans les deux la douceur, la paix, l'abandon à la volonté de Dieu, l'affection de Dieu. Mais Notre réflexion peut nous conduire à ceci. En somme, l'Esprit est descendu comme une colombe sur le Seigneur Jésus qui sortait de l'eau, qui venait d'être baptisé par la main de Jean-Baptiste, une colombe descend en somme sur l'agneau. Et je crois que cela nous dit que la colombe ne peut descendre que sur l'agneau. La colombe, le Saint-Esprit, ne peut descendre que sur celui ou celle qui est vraiment comme un agneau aux yeux de Dieu. L'Esprit, en somme, ne baptise que ceux qui s'abandonnent à Dieu avec confiance, étant pauvres en esprit, étant les humbles de la foi, d'une foi ardente mais humble, ceux qui s'abandonnent à Dieu avec confiance. La colombe ne peut descendre que sur l'agneau. Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, est l'homme dont la vie fut entièrement guidée par le Saint-Esprit. On pourrait, et certains l'ont fait, rapprocher Jean-Baptiste du prophète Daniel, parce que on ne connaît aucune désobéissance au conte du prophète Daniel. C'est vrai, vraiment, sa vie nous apparaît comme celle d'un homme vraiment consacré et obéissant. Mais malgré tout, Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Ce que Gabriel, l'ange Gabriel, avait annoncé à son sujet s'est réalisé. Qu'avait-il annoncé? Nous allons le revoir dans Luc 1, chapitre 1 et verset 13. « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. » Vous direz qu'un fils est généralement toujours un sujet de joie et d'allégresse. Un fils ou une fille, oui. Un sujet de joie et d'allégresse. Mais là, n'est-ce pas, il y avait de hautes raisons pour cela. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, ces choses se sont réalisées. Pourtant, Jean-Baptiste, qui correspond là aux paroles de l'ange Gabriel, dont la vie correspond à ces paroles, Jean-Baptiste pouvait dire à Jésus, qui venait pour être baptisé, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé pour toi, et tu viens à moi. » Jean-Baptiste, donc, malgré tout ce que nous savons de lui et de sa consécration, eh bien, il ressentait le besoin d'être baptisé par Jésus. Et c'est lui qui va avoir pourtant la charge de baptiser, parce que Jésus va lui dire de ne pas résister et de faire maintenant, ce qui est juste. Ainsi, on peut en tirer cette leçon qu'aucun homme n'a de raison d'être soustrait au baptême d'eau. Ça, ce sont des choses que j'ai eu l'occasion de dire quelquefois à des gens qui résistaient un peu au baptême d'eau, qui argumentaient, par exemple, certains baptistes qui ne sont pas baptisés par immersion, mais qui sont baptisés étant petits enfants, J'ai eu un grand ami d'arbiste qui était pieux, et à l'occasion de la naissance de son sixième enfant, il m'avait dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je le baptise? Je lui ai dit, tu fais comme tu veux. Mais tu me demandes, moi, je te dis, ne le baptise pas. Ne le baptise pas, petit enfant. Alors, nous avons discuté ces choses, et je lui ai rappelé notamment ceci, cette conscience que Jean-Baptiste avait du besoin d'être baptisé, et le fait que le Seigneur Jésus, lui, a été baptisé à un âge aussi où il pouvait avoir pleine conscience. Ça n'empêche que cet ami, cédant aux pressions de son milieu, a baptisé, quand je l'ai revu après, il avait baptisé son enfant. C'est difficile, vous voyez, souvent, d'annuler, de faire abandonner des pratiques qui pourtant ne sont pas celles qu'enseigne la vérité. Il est convenable, dira Jésus, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, c'est-à-dire tout ce que l'Esprit Saint nous montre comme étant la voie de Dieu. Voilà ce que l'argument, n'est-ce pas, que Jésus oppose à la résistance de Jean-Baptiste concernant son baptême. Il est bon que nous accomplissions tout ce que l'Esprit Saint nous montre comme étant la voie de Dieu, le seul chemin. Il n'y a jamais deux chemins empruntés, il n'y en a qu'un. C'est pour y rester que l'Esprit est venu sur le Seigneur Jésus, c'est pour y rester, ce n'était pas pour s'en aller après, il y restait, et c'est la même chose pour nous, exactement la même chose pour nous. Si l'Esprit vient sur nous et nous remplir, c'est pour rester. Le désir de Dieu est de maintenir son Esprit sur nous. Je veux lire dans Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Et voyez-vous, Jésus précise bien, il demeure pour l'éternité, éternellement. Quatrième observation. Bien que Jésus soit désigné par Jean comme celui qui baptise de l'Esprit, c'est toujours du Père que l'Esprit vient sur les membres de l'Église. Notons cela, c'est du Père que l'Esprit vient. Je prends encore Jean 14 et je regarde le verset 16, d'abord, que nous venons de lire, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Je prierai le Père. Et allons maintenant dans ce même chapitre au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Que le Père enverra en mon nom. Il ne faut pas déroger de cela, de ce qui est la parole, n'est-ce pas ? Ce n'est pas à nous de demander à l'Esprit Saint, n'est-ce pas, d'aller directement, l'Esprit Saint, eh bien, viens. Non, non. Nous demandons l'Esprit Saint au nom de Jésus, nous le demandons à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous demandons à Dieu, Dieu est souverain, de nous envoyer, le Père enverra, voyez-vous, Jésus précise bien, restons dans la discipline de la parole de Dieu, moi je ne sais pas pourquoi, on irait, n'est-ce pas, adresser directement des demandes au Saint-Esprit. Saint-Esprit c'est Dieu, c'est vrai, mais... Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, cela ne nous est pas donné comme une simple formule. Nous savons que Dieu, le Père, est le souverain. C'est de lui que tout part. toute décision. C'est lui qui est source de tout. Jésus est Dieu tout autant que le Père, le Saint-Esprit est Dieu tout autant que le Père et le Fils, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais soumettons-nous à la parole de Dieu. Nous n'aurions donc pas raison d'appeler directement l'Esprit de Dieu. L'Esprit est Dieu, non pas un Dieu isolé. L'inconvénient que je trouve à cela, c'est qu'on finirait par isoler le Saint-Esprit de la divinité. La divinité est une. N'oublions jamais que le Seigneur Jésus lui-même, dans Marc 12, a rappelé, en se servant d'un texte de l'Ancien Testament, que Dieu est un Dieu unique. Dieu unique est un Dieu unique. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, mais Jésus lui-même nous a rappelé ça, que Dieu est un Dieu unique. Par conséquent, ne séparons pas le Saint-Esprit. Certains, et nous le voyons dans la première épître aux Corinthiens, du temps de l'apôtre Paul, séparaient le Christ, n'est-ce pas ? Moi, je suis de Christ. Alors, ils isolaient Christ, ils le séparaient du Père et du Saint-Esprit, hein, voyez-vous. Et tout cela est une œuvre détestable. Toute demande s'adresse au Père, le Souverain. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père. Ne passons jamais en marge de l'autorité souveraine de notre Père céleste, à qui Jésus nous a montré lui-même qu'il était entièrement soumis. Et vous savez que quand l'ordre aura été rétabli à la fin du millénium, Jésus remettra au Père les pouvoirs, les grands pouvoirs qu'il a reçus de lui, afin, dit Paul, que Dieu soit tout en tous. Dieu soit tout en tous. Une autre observation. Lorsque Dieu fait entendre la voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », ne renforçait-il pas le fait que le Fils de l'homme, restait son Fils et conservait sa divinité? Cela est. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour, toute. Je suis attaché, il est attaché à moi, je suis attaché à lui. Ce que Jésus, d'ailleurs, aimera rappeler lui-même, le Père aime le Fils. Alors, là, nous voyons bien que, tout en étant le Fils de l'homme, venu sur la terre pour l'accomplissement de l'œuvre de rédemption, dans le creuset d'une nature humaine telle que la nôtre, c'est un creuset, c'est dans ce creuset qu'il va opérer notre rédemption. Et cette rédemption va s'étendre à toute l'humanité. N'oublions pas que l'œuvre de libération, d'affranchissement que Jésus a faite, intéresse le monde entier. Bien sûr, Dieu veut même, dira Jésus, que tous les hommes soient sauvés. Ils ne le sont pas parce qu'ils ne veulent pas, mais là, il y a une potentialité qui est absolument universelle concernant l'œuvre de la rédemption. Et puis enfin, nous pouvons dire que ce n'est qu'après avoir reçu l'Esprit pour être rempli du Saint-Esprit que Jésus commença son ministère. Les apôtres, nous l'avons déjà dit, eux-mêmes ne commenceront leur ministère qu'après la Pentecôte. Bon, encore quelque chose, et puis je pense que nous allons pouvoir nous arrêter. Jésus entre donc dans son ministère à l'issue de son baptême d'eau. Et tout au long de son ministère, il sera conduit par l'Esprit. Il sera conduit par l'Esprit. Sa divinité Ah, ça, c'est un sujet très intéressant. La divinité, nous avons dit, ça ne se perd pas, ça, la divinité. Mais elle est comme voilée. Elle est en veilleuse. Il n'a pas regardé comme quelque chose, une revendication, une proie arrachée d'être égal à Dieu et de venir sur la terre. Donc, il ne fallait pas qu'il vînt avec toute la puissance de Dieu. Il reviendra avec toute la puissance de Dieu. Il reviendra avec cette puissance de Dieu, mais il devait venir pour l'œuvre de rédemption, dépouillé précisément, paraissant comme un simple homme. Alors, il sera conduit par l'Esprit. Sa divinité ne reprend le premier plan qu'à certains moments. À certains moments, la divinité réapparaît. Ça, il faut bien étudier vraiment les évangiles pour bien considérer le ministère du Seigneur Jésus. Ça, il nous faut bien connaître le Seigneur Jésus agissant à travers les évangiles. Eh bien, là, nous voyons souvent l'homme. Il n'y a pas de doute, c'est l'homme. Mais à certains moments, la divinité va reprendre le premier plan. Quand Dieu le veut, puisque Jésus est entièrement conduit par l'Esprit, soumis au Père, alors la divinité va reprendre le premier plan à l'occasion de certaines proclamations. Il y a des proclamations qui vont être alors là, celles de Dieu. N'oublions pas, comme l'Épître aux Hébreux nous le dit, que Dieu a parlé par le Fils dans les derniers temps. Notamment ces proclamations qui commencent par « en vérité, je vous le dis ». Amen, amen. En vérité, c'est la traduction de amen. Amen, amen, je vous le dis. Ou alors, quand le Seigneur Jésus commence une proclamation par « je suis la résurrection et la vie, je suis ». Et puis, tout de suite, après son baptême, ce sera la tentation dans le désert. Il sera, nous disent les évangiles, emmené par l'Esprit dans le désert. Cela, c'est Matthieu. Puis, l'Esprit poussera Jésus dans le désert. Ça, c'est l'évangile de Marc. Et puis, dans Luc, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc là, c'est quelque chose d'impératif. Le Saint-Esprit, vraiment, là, use d'une autorité et il conduit Jésus. On ne demande pas à Jésus s'il veut ou s'il ne veut pas. Ben, bien sûr, il aurait voulu, mais il voulait obéir pleinement. Mais là, n'est-ce pas, les textes nous amènent à considérer que l'Esprit use vraiment d'autorité. Il pousse Jésus dans le désert. C'est une vague puissante du pouvoir de l'Esprit qui pousse Jésus, et littéralement, figurez-vous, que dans Marc, selon les hellénistes, les grands spécialistes du grec, n'est-ce pas, eh bien, la nuance est marquée par un adverbe violemment. L'Esprit poussa violemment Jésus dans le désert. C'était en effet indispensable. Et c'était la grande épreuve du début. Épreuve qui ne peut évidemment que être infiniment désagréable, qui ne peut que rebuter la nature humaine. Mais elle était nécessaire. Le second Adam est lui aussi mis à l'épreuve. Nous avons des textes qui nous montrent que la sagesse a été mise à l'épreuve dans l'homme. Et ça, c'est indispensable. Il fallait donc que Jésus fût mis à l'épreuve. Dans Jean-Luc, en effet, Jean-Luc chapitre 11, versets 21 et 22, nous voyons qu'il faut que l'homme fort, l'homme fort, le diable, soit vaincu par un homme plus fort que lui, dans une lutte serrée comme celle de Jacob, pour le dépouiller de ses armes, c'est dépouiller l'homme fort de ses armes et de son pouvoir de retenir prisonnière des armes. Il faut donc que l'homme fort soit vaincu par un homme plus fort que lui dans une lutte serrée. La lutte de Jacob est une belle évocation de cela. La victoire de Jésus dans le désert, cette victoire qu'il a remportée, une tentation en trois formes, la victoire que Jésus a remportée a rendu possible toutes les victoires subséquentes au cours de son ministère, car il y aura d'autres victoires à remporter, mais là, n'est-ce pas, cette victoire devant, en face de Satan même, eh bien, elle a ouvert la porte à toutes les autres victoires. Il en est de même pour nous, chers amis, et je terminerai sur cette observation cet après-midi, il en est de même pour nous, toute épreuve suivie de la victoire de la foi nous prépare favorablement aux victoires à venir et elle les facilite. Elle leur ouvre la porte. Mais il est nécessaire que nous remportions tout de suite les premières victoires. Bien sûr, nous remportons des victoires en nous servant de la victoire du Seigneur Jésus. Mais il faut le faire. Il faut le faire par foi, par confiance. Il est indispensable que nous soyons armés de la victoire même de notre Seigneur et Maître Jésus pour remporter dans les toutes premières épreuves qui peuvent survenir après le baptême, remporter des victoires. Et alors, si nous les remportons, la porte est ouverte à toutes les autres. Si nous fléchissons, il sera difficile, beaucoup plus difficile de revenir à la victoire ensuite. Et nous avons dans l'Ancien Testament des exemples de ça. Il y a notamment l'exemple d'un homme qui pourtant nous est donné comme un grand croyant au point qu'il nous est appelé, il est appelé le père des croyants. Il s'agit d'Abraham. Abraham a eu à subir, à supporter 10 épreuves. Et au début, il a remporté une victoire, heureusement, parce que parmi les 10 victoires, les 10 épreuves, il y en a 4 qu'il a très mal supportées. Lui, le père des croyants. Il a très mal supporté 4 de ces 10 épreuves. Et alors, là, après avoir fléchi, au moment où il est allé en Égypte, parce qu'il y avait famine dans le pays de Canaan, il s'en va en Égypte, et puis là, n'ose pas tout bonnement, « Oh, il dit, les Égyptiens, c'est des gens méchants, c'est des gens qui sont animés de tant de mauvais desseins. » Bon, écoute, Sarah, tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, au lieu de me faire du mal, de me tuer, moi, ils vont me rendre des honneurs. Hein, toi, bon. Alors, tu es ma sœur, n'est-ce pas? On va dire ça. Enfin, on convient de ça. Vous voyez ce que ça a donné, n'est-ce pas? Quelle déconvenue est survenue à la suite d'une telle prise, une telle attitude. Eh bien, après ça, après que toute épreuve qui avait été mal supportée, l'Éternel restait dans le silence pendant assez longtemps. Restait dans le silence. Et si l'Éternel pour nous reste quelquefois dans le silence, arrive ça que beaucoup de chrétiens disent, je sais pas moi, il semble que Dieu ne me réponde pas, il me semble que Dieu s'est éloigné ou moi je me suis éloigné de Dieu, Dieu ne répond pas. Oui, c'est peut-être parce que nous n'avons pas su traverser victorieusement les épreuves qui se sont présentées sur notre route. Mais quand au contraire, Abraham traversait l'épreuve victorieusement, alors aussitôt, l'Éternel se manifestait à lui. Aussitôt, il revenait et se manifestait. Heureusement, Abraham a supporté alors magnifiquement la dixième, la dernière épreuve, celle qui consistait à offrir son fils sur le mont Morija en sacrifice, n'est-ce pas, le couteau levé, prêt à égorger cet enfant aimé, ce fils unique, comme Dieu lui avait dit, il était le second, mais un fils unique, et alors là, l'Éternel a arrêté le geste, je vois maintenant que tu m'obéis, je vois maintenant que tu es soumis, alors ne fais pas de mal à l'enfant, voilà. Tout cela, vous voyez, chers amis, ce sont des enseignements qui nous sont vraiment utiles, il faut réfléchir à tout ça. Notre vie chrétienne, elle est justement là, guidée par tous ces moyens d'enseignement, toutes ces choses merveilleuses de la révélation. Que le Seigneur soit béni. Amen.